simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Aujourd'hui, on va parler contrôle, CAF, radiation, recalcul, enfin toutes ces petites choses qui s'abat hein, aujourd'hui sur les plus précaires d'entre nous. Et pour ça, on a invité Evelyne. Salut Evelyne.
Bonjour.
Et puis, on aura deux personnes par téléphone de Changer de Cap qui nous parleront à la fois du fait que le numérique amplifie et systématise et flic et contrôle, etc. Donc les personnes qui sont usagères de la CAF, c'est-à-dire les gens qui, entre autres, touchent le RSA. Et puis, dans une deuxième partie, on aura une autre personne qui nous parlera du volant juridique, parce que tout ça se déploie dans un flou artistique au niveau du droit et outrepasse largement, normalement, ce qui existe déjà en termes de droit. Déjà que c'est pas génial, mais alors là, il s'assoit dessus allègrement. Donc, on va pouvoir en discuter avec notre deuxième invité dans une deuxième partie de cette émission. Et pour commencer, avec Evelyne, on va parler un petit peu de tout ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de collectifs, entre autres dans le 18e et le 19e, donc, qui tiennent des permanences, entre autres, et ça aussi, c'est vachement bien, parce que les usagers, que ce soit les chômeurs ou les RSistes, ils ont besoin à des moments de rencontrer des gens en visu pour expliquer leur situation et voir comment éventuellement les démêler collectivement, pas rester seuls face à l'institution et à l'appareil répressif. Tu vas nous parler un peu de tout ça, parce que toi, t'es intégré dans tous ces petits mouvements-là, et voilà quoi. Et entre autres, à changer de cap, et on va en discuter un petit peu, c'est quoi ce truc changer de cap?
Oui, alors merci de m'avoir invité, parce qu'effectivement il y a énormément de chômeurs en France, il y en a bien plus que ceux qui sont inscrits bien sûr à Pôle emploi, puisque beaucoup de gens n'ont même pas vraiment les conditions nécessaires pour s'inscrire et n'en voient pas beaucoup l'utilité s'ils ne trouvent pas de travail ou s'ils sont sans papier. Donc il y a quand même des millions de chômeurs en France. Or, il y a aussi des millions d'allocataires qui touchent soit des allocations handicapées, soit des allocations familiales, soit des aides au logement, des APL, soit le RSA. Et ces gens-là sont victimes vraiment d'une sorte d'acharnement répressif incroyable, outre le fait que nos droits sociaux, nos droits à pouvoir vivre, même si on n'a pas forcément un travail excellent ou qu'on en cherche, etc. Nos droits sont déjà très atteints par la réforme de l'assurance chômage qui est passée en octobre dernier, qui a supprimé énormément de droits aux chômeurs, en a exclu beaucoup des allocations, a beaucoup baissé les allocations. En plus, le RSA, on nous dit que maintenant, bientôt, il va falloir travailler gratuitement à mi-temps pour le toucher. Et par rapport à ça, en plus du reste, il y a un acharnement répressif qui fait que des milliers de gens se retrouvent suspendus, radiés, accusés de fraude alors que c'est juste des erreurs, par exemple des CAF ou de Pôle emploi. Alors je voulais expliquer quelles sont les mobilisations face à ça. Il y a depuis très très longtemps beaucoup de mobilisations des syndicats et des associations de chômeurs et de précaires dont je fais partie. Il y a des mobilisations importantes, par exemple à Solidaire, mais aussi à la CGT Chômeurs, qui est une branche de la CGT très très active pour la défense des chômeurs. Il y a aussi des permanences des intermittents du spectacle, de la CIP Île-de-France, la coordination intermittents et précaires d'Île-de-France, qui fait des permanences. Par exemple, la CGT Chômeurs sur Paris, elle a une excellente permanence le vendredi de 10h à midi au 42 rue de Clignancourt. Une permanence le vendredi de 10h à midi. Mais il y a d'autres permanences tenues par exemple par les associations de chômeurs comme Agir Ensemble contre le chômage, dont j'ai fait partie depuis sa création, entre autres. Et l'APES, le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, l'APES aussi. Donc, on essaye de faire quelque chose, mais voilà, on se heurte à une sorte de vague répressive et d'exclusion de tous les gens qui ont besoin de droits sociaux. Alors, il y a donc d'un côté un gros collectif qui existe depuis très très longtemps, qui regroupe ces associations de chômeurs et précaires que j'ai citées, dont je fais partie en tant que présidente et cofondatrice de Stop Précarité depuis presque 20 ans. Et il y a dans ce collectif, il y a les associations de chômeurs et précaires, il y a la CGT Chômeurs, il y a Solidaire, il y a les syndicalistes de Pôle emploi, syndicalistes CGT, Sud et FSU. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de syndicalistes de la CAF, mais justement, ce collectif existe depuis très longtemps pour défendre les chômeurs et les précaires, notamment à Pôle emploi. Et il essaye de s'occuper aussi de la vague de répression dans les caisses d'allocation familiale, mais il a plus de mal parce qu'on n'a pas pour le moment avec nous de syndicalistes des caisses d'allocation familiale. Alors ça, c'est un gros collectif. On va par exemple devant les Pôle emploi ou devant les CAF pour voir comment les gens qui se retrouvent radiés, qui sont en pleurs, qui sont au bord du gouffre. Mardi en 8, on est allé devant la caisse d'allocation familiale de Créteil. On a vu en 1h30 une bonne cinquantaine d'allocataires CAF qui étaient complètement désespérés, au bord du gouffre, abandonnés de tous, sans réponse de la CAF, suspendus sans savoir pourquoi, ou ne pouvant pas accéder à leur dossier, sans réponse, sans rendez-vous, complètement abandonnés à eux-mêmes. Hein. Et on a essayé de les aider, etc. Mais comme on va le dire tout à l'heure, on peut continuer ça pendant des années, tant que le système qui s'applique à eux de contrôle des allocataires de tous les services, hein, que ce soit retraite, assurance maladie, allocation familiale, Pôle emploi, le système mis en place déjà sous Hollande, hein, mais aussi par Macron, est un système qui laisse les gens crever. Donc ça, c'est le premier mouvement. On fait des AG, on en a fait une le 14 juin, on en fera d'autres, etc. Et c'est facile de consulter nos mouvements, on est sur Internet, etc. Le deuxième mouvement, c'est autre chose, c'est le collectif Changer de Cap. Alors moi, je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans. Il existe depuis 2019. Il a été créé notamment par des Gilets jaunes, à l'époque des Gilets jaunes les plus massifs, quoi. Et il a été créé aussi par des chercheurs et par des gens qui, par exemple, font des maisons de chômeurs, comme les maisons de chômeurs du MNCP à Mulhouse, ou comme les maisons de chômeurs du MNCP à Clermont-Ferrand, mais aussi, par exemple, les gens qui ont récupéré le McDo de Marseille dans les quartiers nord, qui s'appelle maintenant l'APREM, ils en font partie aussi de ce collectif. Donc, c'est pas un parti, c'est pas une organisation, c'est une association, mais c'est un réseau de gens qui, localement, portent et créent des alternatives sociales, écologiques et citoyennes, par exemple, qui font des permanences pour aider les gens SDF ou qui délivrent des repas alimentaires ou qui, voilà. Donc, c'est ce collectif Changer de Cap qui veut aider à faire connaître, à mettre en lien entre elles, les différentes associatives en France qui déjà sans attendre, parce qu'il faut pas attendre, on va pas attendre que tel ou tel parti soit au pouvoir, excusez-moi, c'est mon point de vue, parce qu'on va attendre longtemps, etc., puis une fois au pouvoir, bon. Et simplement, sans attendre, ici et maintenant, comme le dirait Miguel Benassayag, eh bien, il y a beaucoup de gens qui agissent dans la solidarité, dans la lutte pour l'environnement, dans la lutte pour le social, donc ils font partie de Changer de Cap. Donc Changer de Cap a été forcément, dans tous ces collectifs locaux, ils ont tous été confrontée à des témoignages de gens qui, à la CAF, dans les caisses d'allocations familiales, soit se voyaient suspendre leurs allocations handicapées, hein, soit leurs allocations familiales, par exemple des femmes seules avec plusieurs enfants, et encore plus si elles étaient d'origine étrangère en plus, ou alors des gens qui ont le RSA ou des gens qui ont l'APL, sachant que les APL, vous le savez, ont chuté terriblement. Beaucoup de gens les ont perdus et puis ce qui reste, c'est peanuts.
Et donc, bah, il fallait payer les McKinsey.
Voilà. Donc, voilà c'est ça, alors, finalement, on a découvert que sur les caisses d'allocation familiale, bah, y a un scandale presque aussi grave, enfin moi je dirais aussi important que celui de McKinsey, parce que déjà, elles étaient gérées avec beaucoup de problèmes d'erreurs, tout ça, parce que comme partout dans les services sociaux, les services publics, vous le savez bien, on supprime les emplois, on ne les remplace pas et on ne donne pas les moyens aux gens. Et surtout, maintenant, il y a le numérique.
Alors, voilà, et ça, on va en parler de toute manière.
Et donc, ces témoignages ont amené Changer de Cap à faire tout un boulot énorme, pour creuser la question. Ils ont rencontré des juristes qui aidaient les gens ou pas. Les gens s'étaient des fois défendus tout seuls, tout ça. Donc, ils ont fait un gros boulot et ils ont mis en évidence un scandale, qui sont que les CAF pratiquent des contrôles numériques où ils suspendent pendant des mois sans les prévenir, donc illégalement, des allocataires qui peuvent être du coup mis à la rue ou crever de faim. Et elles sont hors la loi et donc voilà.
Voilà, bah c'est complètement le sujet, Evelyne, de cette émission, puisqu'on va avoir Valérie Pras tout de suite, là,
qui est
dans
de
quelques
changer
minutes,
de cap, voilà.
De changer de cap sur la question du numérique et en quoi il accélère le contrôle et du coup toutes les sanctions qui vont malheureusement avec. Et puis après on aura Didier Minot qui nous parlera plus de l'aspect juridique.
Parce qu'il
est co-fondateur. Je voulais juste, par rapport à ce que tu viens de dire, mettre un petit bémol, on va dire, parce que c'est vrai que nous on a été aux différentes manifestations quand même de chômeurs, vu qu'on est premier concerné, hein, n'est-ce pas Joël, à la technique. Donc c'est des sujets qui nous intéressent. On est loin d'être minoritaire sur cette question, puisque comme tu le disais, on est quand même plus de 10 millions, bon, il y a des chômeurs, il y a des précaires, il y a des gens qui ont que dalle et ça commence à faire beaucoup, hein, on nous entend pas beaucoup, on est complètement minoré, on a peu le droit à la parole, mais ça n'empêche que dans nos beaux pays civilisés, modernes, ultra riches, on est quand même de plus en plus nombreux à vivre dans des conditions hyper précaires, voire dramatiques, hein, pour certains. Et dans ces manifestations, on n'était pas super nombreux quand même, donc c'est pour ça, c'est juste pour dire que ces associations, même si elles existent, c'est tant mieux,
oui,
bien évidemment, mais elles sont souvent le fruit de quelques individus mobilisés, on est super pas,
oui,
il y a très très peu de
oui,
monde. Et même sur la question, on en avait discuté même avec François du SNU,
oui, François Millet, oui,
voilà,
l'emploi,
pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi les syndicats ne s'intéressent si peu à la question du chômeur, c'est-à-dire qu'on est plus dans un travail avec d'ailleurs les gens qui ont des contrats fixes, les CDI, etc.
Oh,
et que la question
minoritaire, hein,
de la précarité et entre autres, enfin toutes ces questions-là, elles sont très très minorées quand même de la part des syndicats. C'est bien dommage puisque on peut passer d'un emploi au chômage très rapidement dans nos sociétés. Voilà, et bah donc du coup, on a Valérie. Donc on va, tu interviens quand tu veux, hein, Evelyne, on va lui poser toutes les questions pour histoire de comprendre un peu mieux ce fonctionnement. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Voilà, bon écoute, on est très content de t'avoir. Tu es partie de Changer de Cap et si tu es par téléphone, c'est parce que tu es assez loin de Paris.
Exactement.
Voilà, t'es où?
Au pied des montagnes.
Merci. Ok. Eh ben, écoute, on voulait aborder avec toi la question du numérique, puisque, on le sait, hein, ça fait une dizaine d'années que la matérialisation, la dématérialisation est en cours, histoire d'abord de virer des gens. Hein, il faut virer du fonctionnaire, dégraisser le mammouth. Et puis, d'un autre côté aussi, comment ça joue sur les usagers de la CAF. On va rester sur la CAF sur cette émission, hein, même si la question de la dématérialisation et du numérique, elle touche toutes les administrations, l'immigration et elle touche de plus en plus nos vies, malheureusement, dans tous les secteurs. Là, on va rester sur la CAF. Donc, du coup, comment, d'abord, depuis combien de temps ça existe? On a vu que le Covid avait quand même accéléré pas mal les choses. Et en quoi ça joue sur les allocations des RSistes?
Alors, il y a deux côtés, en fait, sur l'aspect numérique. Il y a d'abord la dématérialisation des administrations et des organismes de prestations sociales, c'est-à-dire que globalement, on ne peut plus rien faire sans passer par un site Internet. Elle a été accélérée, elle n'est pas nouvelle, hein, elle date des années 90, elle a été fortement accélérée depuis 2017, sans prendre en compte les problématiques de fracture numérique et d'autre part d'électronisme. C'est-à-dire que la fracture numérique, c'est quand les gens n'ont pas accès aux outils numériques, que ce soit parce qu'ils sont dans une zone blanche, en zone rurale, ou parce que tout simplement, ils ne peuvent pas s'équiper. Et l'électronisme, c'est l'incapacité à se servir de ces mêmes outils.
Et il y en a plus qu'on croit, hein.
Il y en a beaucoup plus.
Il y en a beaucoup plus qu'on croit, hein, parce que il y a énormément de gens, même des gens qui utilisent les ordinateurs. Quand on se retrouve devant les plateformes administratives, c'est un peu l'angoisse, hein, même pour des gens qui pratiquent. Hein.
Mais la fracture numérique, ça touche beaucoup de gens.
C'est l'INSEE qui a fait un chiffrage là, récemment et qui dit que 38% des usagers d'Internet, donc déjà les gens qui ont accès à Internet, manquent d'au moins une des compétences pour effectuer leur démarche en ligne.
Non, carrément. Non, mais bon, pour dire que c'est vraiment important. Donc, du coup, quand on se retrouve face à un problème, c'est vraiment déjà, en plus, il y a peu de solutions et peu de rendez-vous. Mais ça, tu vas nous en parler en visu. Ouais. Hein, donc, du coup, c'est difficile de régler les problèmes.
Voilà, exactement. Il n'y a plus de rendez-vous. Il n'y a plus de... Bon, essayer de contacter par téléphone, c'est la croix et la bannière. Et puis, bon, l'accès à l'espace personnel sur le site de la CAF n'est évidemment pas si évident pour un tas de gens. Donc ça, c'est la première partie qui est un peu la partie visible, on va dire. Mais la dématérialisation, c'est aussi la gestion numérique des dossiers par un système très opaque et d'algorithmes. En fait, on ne sait pas exactement puisque ce n'est pas du tout transparent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il existe des algorithmes qui vont calculer des scores de risque pour les gens. C'est-à-dire que, par exemple, une personne seule, une maman seule ou un papa seul va être plus à risque qu'une personne en couple. Une personne étrangère va être plus à risque qu'une personne française. Et ça peut même dépendre de son lieu d'habitation. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des variables. Dont on ne connaît pas ni le poids, ni combien il en existe. Et ces variables vont faire en sorte que les personnes, les allocataires de la CAF, ont un score de risque. Ce score de risque augmente la probabilité d'être contrôlé.
D'accord, ok. Alors, il y a... Oui, vas-y.
Pardon. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est évidemment les contrôles qui sont déclenchés automatiquement par la machine en fonction, vu qu'il y a des interconnexions de fichiers maintenant. La CAF l'annonce, hein, elle le dit, qu'elle compare, par exemple, quand on déclare les ressources, qu'elle compare avec les fichiers des impôts. Mais en fait, il y a beaucoup plus de fichiers interconnectés que ça. Et si la machine constate un décalage, en fait, entre ce qu'une personne a déclaré comme ressource et ce qui existe dans le fichier des impôts, ça déclenche un contrôle automatiquement.
D'accord. Alors, je voulais juste appuyer, hein, puisque j'ai votre texte en face des yeux. Et donc, en fait, il y a plus de 1000 données par personne qui sont connectées pour 13 millions de foyers. Parce que grâce, donc, du coup, ce que tu disais, à l'interconnexion des dizaines de fichiers administratifs, impôts, éducation, police, justice, etc., les contrôleurs, ils ont donc aussi accès, puis les algorithmes, à toutes ces données. Et ça permet voilà, de faire des tas de recoupements et puis de déterminer qui est à risque, qui n'est pas à risque, et puis de mettre en place un contrôle spécifique. Et puis donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il y a un contrôle et qu'ils se rendent compte qu'il y a une différence ?
Ou tout simplement une interruption de droit, en fait. Il suffit qu'une préfecture ait un retard dans le renouvellement d'une carte de séjour. Les droits sont interrompus directement. Ensuite, ça peut déclencher effectivement ce qu'on appelle des contrôles sur pièce ou sur place. Et là, les contrôleurs ont encore plus de droits d'incursion dans la vie privée, puisqu'ils ont la capacité de demander que ce soit les comptes bancaires, les factures d'EDF, les choses comme ça, quoi.
Ça veut dire que là, il y a la possibilité, c'est quand même assez incroyable de voir l'intrusion comme ça qui est faite, mais ça on le sait depuis hyper longtemps, hein. Il y en a même qui venaient voir dans le lit s'il n'y avait pas un autre partenaire qui y dormait, etc. Mais là on se rend compte qu'il y a vraiment une intrusion incroyable, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur la question du droit, mais une espèce de faveur qu'on octroie aux RSistes, et en échange de quoi il va falloir qu'ils ouvrent leurs portes, qu'ils ouvrent leurs comptes bancaires, qu'ils ouvrent tout pour justifier de... Alors attends, il y a Evelyne qui veut intervenir.
Juste une petite précision, c'est pas que les gens qui ont le RSA, c'est des millions
chômeurs.
De gens. Hein. C'est tous ceux qui touchent l'APL, qui touchent les allocations familiales, qui touchent les allocations handicapées et le RSA aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de gens.
Oui, c'est toutes les aides, oui.
Carrément. Et donc là, du coup, ils peuvent se permettre de demander les comptes bancaires, les factures, pour voir le niveau de vie, si on a une voiture ou pas, si on part en vacances. Enfin, c'est toute la vie qui est épluchée pour voir si, effectivement, on a droit ou pas à toucher toutes ces énormes sommes, d'ailleurs, il faut bien le dire.
Puis ils peuvent rentrer chez vous, et si vous refusez qu'ils rentrent, c'est encore pire. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est une chasse aux pauvres, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune poursuite pour tous les gens qui se remplissent les poches sur notre dos. Hein.
C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est important de le dire parce que là, j'ai l'impression qu'en France, on vit quand même sur des mondes tellement séparés où ceux qui ont un emploi qui peuvent le perdre du jour au lendemain, je ne leur souhaite pas, mais ne se rendent pas tout à fait compte de ce que c'est que la réalité d'un chômeur, d'un précaire, d'un RSiste, de gens comme ça handicapés, etc. Et que, bon, tant que ça ne les touche pas, il n'y a pas de souci. Mais ils ne se rendent pas bien compte que toute cette réalité de contrôle, elle va s'appliquer, et elle s'applique d'ailleurs dès maintenant à l'ensemble de la population. Hein. Et
puis moi, mais ne serait-ce que même les gens qui touchent les allocations familiales entre guillemets traditionnelles et qui ne sont pas forcément dans la précarité devraient savoir qu'il y a un tas de données qui est récupérée sur elles en permanence. On ne sait pas, on n'a aucune transparence à ce sujet. Nous, on la demande parce qu'on sait, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est non seulement des fichiers qui viennent des différentes administrations, mais c'est aussi des données qui sont achetées à des courtiers.
Ouais, comme aller voir aussi sur Facebook si on part en vacances. Enfin, bon, si,
on sait qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, de récupérer des données sur les gens et qui les revendent. En Grande-Bretagne, il a été établi par des ONG que les organismes de prestations sociales se servaient de ces données, donc allaient jusqu'à les acheter au secteur privé. Hein. En France, je n'avancerai pas jusque-là, on n'en sait rien, mais toujours est-il que n'importe quelle personne, n'importe quel allocataire de la CAF doit savoir que il y a du stockage de données à son sujet, quoi.
Et alors, ouais,
en
vas-y.
But, de manière... Alors ça, est-ce que c'est illégal ? Pas forcément. Par contre, c'est complètement opaque. Et il faut savoir que chacun a le droit de demander ses données, puisqu'il existe un code des relations entre le public et les administrations. Donc chacun, par exemple, quand on reçoit, vous devez tant d'argent à la CAF, etc., d'abord, il est obligatoire que si la décision a été prise de manière automatique, ça soit mentionné. Et partant de là, les gens ont tout à fait le droit de demander, quelles données ont été utilisées, quel traitement quel traitement. Ah ouais,
voilà la galère. Hein. Bon, déjà, rien que pour avoir un rendez-vous, c'est l'apocalypse. Donc là, pour avoir, à mon avis, c'est l'enfer.
Ouais,
hein.
Mais, je pense qu'il faut forcer la chose parce que c'est comme ça qu'on parviendra avec des associations spécialisées comme la Quadrature. C'est comme ça qu'on pourra parvenir peut-être à savoir... comment sont établis les scores de risque,
ouais,
etc.
Alors, il y a aussi autre chose que je voulais aborder avec toi, c'est que la CAF, donc on lui donne des objectifs de fraude. C'est-à-dire que, voilà, on dit, voilà, il faudrait arriver à attendre, là, par exemple, pour 2022, on est à 380 millions d'euros. Hein, donc, ils ont des objectifs. Et quelque part, il faut qu'ils les remplissent. Et tous les contrôleurs, hein, parce que là, on a beaucoup mis des contrôleurs et pas à l'accueil, ça ferme. Hein, il n'y a plus de CAF en visu. Hein, et il n'y a plus d'accueil. Mais par contre, des contrôleurs, alors là, il y avait du taf hein, pour les contrôleurs. Et donc, du coup, ces gens-là, quand ils ont un petit dossier croustillant qui fonctionne, et ben, ils ont des petites primes. C'est un peu comme les policiers. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais quand même.
C'est-à-dire que ça les amène à... On imagine, hein, ça les amène à instruire les dossiers à charge, en fait.
Bah oui, c'est exactement. Ouais.
Et à déclarer comme fraude ce qui ne l'est pas. Ça peut être une erreur. Ça peut même être une erreur de la CAF. On a des personnes qui ont eu une aide... de leur famille une aide ponctuelle de, je sais pas, 50, 100 euros qu'elles n'ont pas déclaré parce que comme ressource parce que pas pareil, c'est pas hyper clair quoi, les ressources à déclarer.
Et puis sans compter qu'avec 450 balles ou 500 balles, c'est quand même très difficile de vivre. Donc effectivement, de temps en temps, la famille aide un petit peu parce que c'est pas suffisant.
Je veux dire, des vêtements d'occasion vendus, des choses comme ça qui font des petites ressources supplémentaires.
C'est ça. Tout ça, tout ce qu'on peut vendre à droite à gauche pour se mettre un petit peu plus de sous. Ça devrait être déclaré normalement. Non, mais franchement.
Alors, ça devrait être déclaré. Et évidemment, on n'y pense pas. Et ça tombe direct dans le cas de la fraude, même si la CNAF fait une grosse publicité sur le droit à l'erreur. Il est très limité, quoi.
Carrément. Et donc, cette histoire d'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils se disent avant de commencer à contrôler, ils se disent il faudrait qu'on arrive à temps.
Oui. Ouais, c'est ça. C'est plutôt Didier qui va pouvoir vous...
Ok, j'en parle. Oh, d'accord, on en parle juste après toi, ça marche.
Oui, c'est plutôt Didier là-dessus, sur les contrats d'objectifs. Mais oui, effectivement, oui, il faut qu'ils arrivent à temps. Alors évidemment, ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin, ils récupèrent, entre guillemets, à peu près 500 millions par an sur 32 millions de contrôles, ou 38 millions de contrôles.
Vas-y, oui. Il y a Evelyne qui veut...
Oui, non, c'est juste pour ajouter que dans ces contrôles, il y a l'aspect illégal parce que les gens sont suspendus sans être prévenus, sans qu'on leur explique le motif. Et ils ont un mal terrible à se faire entendre ou à comprendre ce qu'on leur reproche. Et la deuxième chose qui est illégale, c'est qu'on ne leur laisse pas même le reste à vivre. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils peuvent crever. Par exemple, une femme seule avec des enfants qui n'a plus d'allocation familiale, qu'est-ce qu'elle fait selon vous? Quelqu'un qui n'a plus d'APL et qui ne peut plus payer son loyer, qui est mis dehors, qu'est-ce qu'il fait? Ces gens-là, on les met dans des situations inhumaines, alors que normalement, la sécurité sociale, comme les allocations familiales, ont été créées pour partager le droit de vivre à tout le monde.
Ouais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter dont on n'a pas parlé? Parce qu'en fait, on se rend compte que cette histoire d'accroissement exponentiel des contrôles, faut quand même, là, tu l'as dit juste avant, 32 millions de contrôles automatisés en 2020, elle est possible grâce au numérique. Donc, à chaque fois, on met en avant, oui, le numérique, c'est génial, etc. Mais enfin, bon, on se rend compte quand même que de l'autre côté de la balance et qu'elle pèse de plus en plus lourd, c'est quand même du contrôle social énorme, quoi.
Nous, ce qu'on défend, en fait, c'est que le numérique, on va pas dire que c'est inutile, loin de là, mais par contre, c'est la manière de s'en servir. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a forcément une volonté politique. C'est-à-dire que si on a un algorithme qui dit que les mamans célibataires sont plus dangereuses, entre guillemets, sont plus à risque que les mamans en couple, que que les personnes qui habitent dans un quartier sont plus dangereuses que celles qui habitent dans un quartier bobo, etc., etc. L'algorithme, lui, calcule tout ça. C'est-à-dire qu'il sort un score de risque, il sort des probabilités. Ce n'est qu'une machine. C'est-à-dire que derrière, il y a quelqu'un qui a dit que la variable maman célibataire, ça pesait tant de poids pour établir un score de risque.
Claire, mais bon, enfin bon, c'est à la fois on peut pas dire que le comment dire, la technique elle est neutre, hein, elle est effectivement employée, mais elle sert aussi au pouvoir, c'est aussi ce qu'on en fait, mais c'est aussi elle a des conséquences écologiques, enfin tout ça qui sont pas pris en considération. Non, mais je voulais quand même en parler parce que c'est loin d'être neutre et on se rend compte là actuellement que le numérique il sert quand même plus au contrôle que à faire circuler et à développer le sens critique. Hein. Enfin bon, j'ai l'impression quand même.
Oui, et puis là, je veux dire, c'est toutes des choses dont on pourrait se servir pour. Au contraire, faire en sorte que les gens aient accès à leurs droits.
Le mieux, c'est une personne dans ces cas-là, parce qu'une personne est quand même beaucoup plus apte à envisager les cas particuliers. On est tous différents, on est tous des cas particuliers, on n'est pas des chiffres, des numéros, ni des algorithmes. Donc, en général, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi. Quand même vachement mieux. Ça crée de l'emploi et ça crée de
un peu plus
d'écoute, quoi. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler deux secondes de Changer le Cap là où t'es ?
Changer le Cap, ben oui, c'est un collectif qui regroupe plusieurs associations, etc. Et notre objectif, justement, c'est de mutualiser, d'une part, les expériences qui sont porteuses d'alternatives et aussi de mutualiser, de faire connaître des injustices sociales ou environnementales. D'accord. Et de partager les combats quand il y a besoin. Donc celui de la CAF à l'heure actuelle, parce que nous on ne dit pas gna, c'est pas beau, c'est pas bien. On essaye aussi de proposer autre chose derrière, quoi.
Ouais, mais même on peut dire c'est pas bien s'il n'y a pas de gna devant. Hein.
Non, mais je veux dire, on n'est pas que dans la critique, voilà.
D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour être
interviewé. Surtout s'il y a des gens à qui c'est arrivé et qui veulent témoigner, qui n'hésitent pas à nous joindre.
Ouais, parce que c'est ça, en fait, on se rend compte quand même, et on en a parlé un petit peu avec Evelyne tout à l'heure, c'est que souvent, bon, bah, les gens qui sont ric-rac, hein, parce qu'il faut se dire que quand on te supprime tes allocs, en général, t'es tellement ric-rac que déjà, au 15 du mois, t'es déjà dans la merde. Alors, en plus, si on t'enlève les thunes, alors là, t'es carrément, mais tu sais même pas comment tu vas faire. Donc, ces gens-là qui sont vraiment au bout du rouleau, ils ont vraiment du mal aussi à se regrouper, à se battre, et à trouver des oreilles et puis aussi une solidarité qui puisse
on fonctionne beaucoup avec l'entraide entre les gens. Mm-hmm. Là, on est en train de créer un dossier d'appui aussi où les gens peuvent par exemple, même si ils n'ont pas d'avocat, etc., si la CAF leur demande ce qu'on appelle les indus, donc où ils se servent, où ils disent que les gens ont trop perçu et ils se servent sur ce qui leur reste, sur ce qu'ils leur versent pour rembourser. Par exemple, ne serait-ce qu'en faisant un recours, c'est suspendu.
D'accord, ça c'est important aussi de le savoir.
Donc, nous, on va essayer de donner plein d'informations comme ça qui vont permettre, qui ne vont pas sauver tout le monde, évidemment, parce qu'on a affaire à une grosse machine. Mais là encore, c'est Didier qui en parlera mieux que moi.
Ça marche.
Et puis, essayer de contrer cette numérisation à outrance et que ce ne soit pas les machines qui décident de nos sorts, quoi.
Ça marche. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Valérie.
Merci.
Au revoir.
Merci. À bientôt.
Au revoir.
J'ai faim de sens, de fond. Besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes, rester condamné à n'évoluer et courir des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé, affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis, vite le temps est mon ennemi. pareil si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose sans renier mes origines, et bien avant que je me décompose vite. Besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim. Flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is a merely a concept to find my path as I find my step. See the kids that seem so famished. They want direction cause their needs is vanished. I'm munching on the cruise like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pasties. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out.
Eh bien, on continue. Et on continue cette émission sur les contrôles, la numérisation et comment se battre contre tous ces contrôles. De la CAF. Et donc pour ça, on continue avec Didier Minot sur la question plus juridique, parce qu'on se rend compte qu'autour de toute cette activité numérique, ces contrôles et ces suspensions de revenus, et ben tout ça se fait un peu dans une espèce d'opacité et où le droit n'est pas toujours bien respecté, et on sait combien le droit n'est pas en notre faveur, et là du coup c'est quand même voilà un peu de ça surajoute en tous les cas. Donc on voit avec Didier Minot, qui fait partie aussi de Changer de Cap, cette question juridique sur laquelle vous travaillez. Bonjour Didier.
Bonjour Nadia, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, alors peut-être juste deux mots quand même sur là où t'es, Changer de Cap, et puis ton activité au sein de Changer de Cap.
Ah d'accord.
Alors vite fait quand même, une petite présentation.
Oui, tout à fait. Alors Changer de Cap s'est créé au début de la mobilisation des Gilets jaunes pour rapprocher les préoccupations écologiques et les revendications sociales. Très vite, c'est devenu un réseau de 10, 20, puis 70 correspondants de différents collectifs locaux, écologiques, Gilets jaunes, ronds-points, etc. Et aussi des groupes qui se posaient la question des territoires avec la préparation des municipales. Ça s'est beaucoup... On a beaucoup perdu de ces correspondants avec le confinement, et aujourd'hui on s'attache à redonner espoir à tous ceux qui se découragent, parce qu'on voit que les circonstances sont très difficiles, et du coup on donne beaucoup d'écho aux victoires, aux bonnes nouvelles. Et aux témoignages qui nous viennent du terrain.
Il y en a des bonnes nouvelles ? Si.
Ah, bien sûr, il y en a.
Oh, super.
Mais il y en a tous les mois, on en a un assez grand nombre, hein, bien sûr. Bien sûr, et c'est ça qui nous paraît, ça nous paraît important de pouvoir les restituer. Hein,
dans les partager
dans
en
la
tous
dernière
les cas.
Lettre, par exemple, on a des récits de femmes qui mettent des mots sur les parcours de femmes dans un CADA. On avait la victoire au Chili quand même, hein, faut pas l'oublier celle-là, hein, avec la mise en place d'un gouvernement jeune. On avait
l'Inde aussi.
Contrainte au succès, contrainte à l'examen d'une mesure protectrice par une initiative citoyenne européenne. Une régularisation de sans-papiers amende. Alors c'est des petites choses des fois, hein, mais on voit qu'au total, il y a pas mal de choses. Hein. Et puis la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée, les consommateurs protégés des pratiques bancaires par le Conseil d'État, etc. Enfin, je ne vais pas...
On ne fait pas la liste, on va rester sur la CAF, là, voilà, aujourd'hui, on parlera de tout ça une autre fois.
Voilà. Bon, alors, donc, du coup...
On a parlé, donc, avant toi, on a parlé avec Valérie de toute la numérisation, des contrôles et de tout ce que ça aussi engendre dans la vie des usagers.
Hein. Tout à fait.
Et là, on voulait parler plus avec toi sur l'aspect juridique.
Sur l'aspect juridique, absolument. Voilà. Alors, quand on a eu connaissance des premiers cas, on a lancé un appel à témoignages et on a vu remonter des dizaines de témoignages de gens qui se trouvent face à l'arbitraire, hein, on faut l'appeler comme ça, c'est-à-dire à la fois beaucoup de contrôles qui sont déclenchés automatiquement par l'algorithme, et ça vous en avez parlé, hein, et des suppressions d'aides qui sont appliquée sans en informer les allocataires et sans notification, ce qui est absolument contraire à la loi, parce que normalement, on doit avoir une procédure contradictoire. C'est un des principes généraux du droit. Quand l'administration a quelque chose à reprocher, par exemple à un contribuable quand il s'agit des impôts, elle envoie un constat en demandant dans un délai d'un mois, deux mois, à la personne de formuler ses observations. Il y a débat, il y a échange et après il y a décision. C'est ça le principe du contradictoire. Les principes du contradictoire reposent sur une présomption d'innocence. Là, il n'y a rien de tout ça. On a des témoignages où les gens reçoivent une lettre disant « Madame, nous avons vu que vos parents vous aident. » Alors la pauvre femme, elle a 1080 euros de revenus par mois avec deux enfants à charge, seule. Elle a 800 euros de loyer parce qu'elle a paumé son boulot. Et ses parents lui donnent un peu d'argent. Bon, et nous sommes allés voir sur vos comptes en banque que vous avez une pension alimentaire de vos parents. Et donc, puisque vous ne l'avez pas déclaré à plusieurs reprises, vous êtes fraudeuse et on vous met une amende. Bon. Et tout ça dans le même courrier, hein, avec en prime une intimidation, puisqu'on dit en caractère gras, toute fausse déclaration est punie d'amende ou de prison, carrément. Hein, ils hésitent pas. Bon. Donc, voilà. Donc ça, c'est le... Et il n'y a pas... On n'a ni les modalités de calcul de l'indu, ni les délais de réponse, ni les voies de recours. Ce qui, tout ça, est normalement dans les textes généraux.
D'accord.
Donc, pardon.
Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on constate ce manquement donc aux règles élémentaires qui sont le socle de nos droits, quoi.
Oui.
Comment vous faites pour faire valoir ça, enfin pour dire il y a un problème là.
Malheureusement, on ne peut pas être derrière chaque allocataire. Hein. Donc nous, on constate pour le moment, on en est à constater sur des exemples des problèmes qui concernent énormément de monde.
Hein. Ok, vous êtes sur l'enquête, quoi, en fait.
On est sur l'enquête.
Mais c'est super parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passait à la CAF était pour l'instant très peu, très vite, on le voyait pas, quoi.
On s'aperçoit que c'est un phénomène massif parce que les contrôles sont déclenchés automatiquement pour l'ensemble des allocataires. Or, les allocataires, c'est 2 millions de personnes au RSA, c'est 1,2 million de personnes qui reçoivent l'allocation handicapée, et c'est 3 millions, de bénéficiaires d'aide au logement. Donc 6 millions de personnes au total. Et ça se fait dans le silence, sans que personne n'en parle. Ça nous a complètement scié. Voilà. Alors, j'ai pas fini de dire ce qui était illégal. Hein.
Je t'en prie.
D'autre part, les allocations, dès qu'il y a contrôle, et il y a des contrôles très fréquents, hein, les allocations sont suspendues dès le début du contrôle, sans respect du reste à vivre qui est légalement imposé à tous les créanciers. Quand vous avez détourné de l'argent, on vous demande de rembourser cet argent. Eh bien, on ne peut pas vous priver de tout revenu, on est obligé de vous laisser un reste à vivre. Ça, c'est dans le...
Ça correspond à combien, le reste à vivre ?
Le reste à vivre, je crois que c'est le RSA pour une personne seule, ou quelque chose comme ça. Hein, mais il faudrait... Attends, j'ai mon... Je l'ai noté, mais je ne l'ai pas mémorisé.
Non, mais vas-y, tu regarderas, t'inquiète.
Ouais. Mais disons que ce qui se passe, c'est que la CAF se sert directement en suspendant les versements, voire même en faisant des prélèvements sur le compte en banque de façon totalement discrétionnaire. Et ce non-respect du reste à vivre a des fois des conséquences dramatiques. Par exemple, on a un des témoignages, une personne qui a l'allocation handicapée, parce que elle a un score de risque. Alors, je pense que Valérie vous a expliqué ce qu'était le score de risque.
Hein. Oui, elle nous l'a expliqué, mais tu peux le redire parce que c'est bien quand...
C'est-à-dire qu'on fait un profil des gens et selon leur situation, on va considérer que il y a des facteurs de risque qui s'additionnent. Par exemple, une personne seule avec enfant, c'est un facteur de risque. Par exemple, le fait d'être né à l'étranger, c'est un facteur de risque. Le fait d'être handicapé, c'est un facteur de risque. Tout ça, c'est
en fait, plus tu es pauvre, plus tu risques effectivement d'être pauvre. Et c'est une
Exactement.
Évidence, je veux dire, une tautologie là. Oui, d'accord.
Exactement. Mmh. Et donc, du coup, les gens qui ont un score de risque élevé sont soumis à des contrôles plus fréquents. Et une femme qui est seule avec des enfants, handicapée, a eu 5 contrôles en 18 mois. Chaque contrôle dure environ 3 mois. Et pendant le temps du contrôle, ses allocations sont suspendues préventivement. Ce qui fait qu'elle passe son temps à avoir des rappels de 3 mois et à une nouvelle suspension des rappels de 3 mois. C'est totalement kafkaïen. Et même pour une personne qui n'aurait aucun problème de fragilité psychologique, c'est complètement déstabilisant. Alors, a fortiori, quand les personnes, on cumule ça avec d'autres difficultés. Donc, on est face à une administration qui est devenue totalement inhumaine, totalement à rebours de ses objectifs de départ, qui étaient des objectifs de solidarité. Hein. Et du coup, nous dénonçons, bien sûr, ce cumul entre des procédures automatisées qui ont été conçues d'en haut sans aucun souci de la dimension humaine des aides, et puis des procédures financières qui se sont surajoutées avec l'assimilation de la CAF à une entreprise. Parce que il y a maintenant, depuis 12 ans, une convention d'objectifs entre la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, et sa tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et le ministère des Finances, qui impose des objectifs chiffrés de décèlement de fraude aux différentes CAF, et ça descend en cascade jusqu'au contrôleur. Chaque contrôleur doit trouver un certain nombre de fraudes. Il y a une politique du chiffre qui s'est mise en place, comme dans la police, à peu près sous Sarkozy en même temps. Hein. Les contrôleurs doivent déceler un minimum, et leur prime d'intéressement est indexée sur ce qu'ils découvrent. Donc, c'est une forte incitation à instruire les dossiers à charge, bien sûr. Et ça a été dénoncé par le défenseur des droits depuis 2017, sans que ça bouge. Et nous, on veut relancer la dénonciation de ce qu'a dit le défenseur.
Alors justement, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des avocats? Est-ce que vous avez déjà mis en place des recours?
On a démarré ça quand même il y a 2 mois, hein, donc on a été vite. Hein.
Je sais, hein, mais c'est juste pour savoir.
Attends.
Oui, c'est les recours, ce que vous êtes en train de mettre en place, en fait.
On est en train de mettre en place, en fait, bon, on a fait une analyse qui maintenant est assez complète, et pas plus tard qu'hier soir, on a réuni pour la première fois le groupe juridique, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que à partir de l'appel à témoignage qu'on a fait, on a eu spontanément différentes personnes qui se sont mises à notre disposition pour approfondir la question. Des avocats spécialisés dans le droit social et le droit administratif, des gens qui viennent bien sûr la Quadrature du Net avec qui on travaille étroitement, hein, mais aussi des juristes de la Fondation Abbé Pierre et d'un collectif qui s'appelle Accès Droits Sociaux et qui traite des affaires tous les jours. Et on est en lien aussi, mais ça c'est des membres de notre collectif, avec des organismes d'aide aux personnes immigrées depuis longtemps, qui traitent aussi, qui ont dans leur mission l'accès aux droits. On est en lien avec Rome Europe, on est en lien avec de nombreux organismes qui tous nous disent « Ah, ben c'est formidable, enfin, on n'est pas tout seul, on s'aperçoit que enfin, c'est super que vous fassiez ça, etc. Et donc, on prévoit une action à plusieurs niveaux. D'une part, de donner aux allocataires qui sont soumis à des contrôles des éléments, des lettres types, des comment faire, peut-être des petits schémas avec pour comprendre les étapes de la procédure qui est hyper complexe. Hein, on ne peut pas faire un recours amiable, il faut avoir fait un recours amiable avant de saisir le tribunal, etc. Donc des éléments de compréhension et si possible des éléments à qui s'adresser. On envisage aussi de relancer, après les élections présidentielles, les groupes d'entraide qu'on avait commencé à mettre en place en décembre, d'une façon beaucoup plus large que sur les CAF, mais en permettant à ces groupes d'entraide aussi de venir en aide à des gens qui sont soumis à des contrôles CAF. La deuxième chose, c'est que on souhaite avoir... on va essayer de voir si on peut trouver des exemples sur lesquels on peut faire des recours ou faire des recours, parce que ce n'est pas nous qui pouvons faire les recours, c'est les personnes qui sont incriminées, pour que en faire des cas de jurisprudence. On voit bien la limite de ça, c'est que il y a des dizaines de milliers d'exemples, et nous on va en prendre deux ou trois, et on va peut-être gagner là-dessus. Mais est-ce que ça fera vraiment jurisprudence? Est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan? Il y a des cas où ça peut être très utile de le faire, mais il faut en même temps que ça soit médiatisé. Et donc la troisième dimension, c'est de médiatiser au maximum. Donc on vous remercie beaucoup, vous êtes les premiers à nous donner l'occasion d'en parler, mais on espère bien avoir d'autres dossiers qui vont, enfin d'autres des dossiers dans d'autres médias, etc. Et que ça devienne un sujet.
Hein. Mais je pense que cette question de faire des espèces de petits carnets hein, d'informations sur comment réagir face à un contrôle, oui. C'est super important parce que pas mal de gens ne savent pas, par exemple, que le fait de recevoir de l'argent de ses parents, bah, c'est une galère. Bah, donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est quand même de le recevoir en liquide. Comme ça, du coup, on n'est pas emmerdé. Il hein. Y a ça, il y a des tas de petites choses à savoir qui nous mettent moins dans la merde. Quoi. Et puis aussi, le fait que... est-ce que les banques sont obligées de donner les relevés bancaires aux organismes de contrôle. Oui, non, mais il y a des fois où elles ne le donnent pas parce que ça leur fait du travail supplémentaire. Enfin, toutes ces choses-là à évaluer aussi qui peut servir l'usager, quoi.
Absolument. Mmh. Bon, mais il faut qu'on fasse connaître. Nous-mêmes, on ne connaît pas tout, mais on est en lien avec des gens dont c'est la pratique quotidienne. Donc, je pense qu'on va pouvoir dire des choses. Hein. Et dès qu'on en a parlé... On nous a dit, ah oui, mais nous, on a des lettres types. Nous, on a, par exemple, si vous faites un témoignage, faites-le sur le document CERFA qui va en justice, ça évitera de le refaire deux fois, etc. etc. Enfin, on découvre...
Carrément, mais tout le monde a des petits bouts d'informations. Voilà. Les mutualiser, ça fait une force.
J'ai pas eu le temps de faire la synthèse du travail d'hier soir parce qu'on a travaillé 2 heures par Zoom. Il y avait plein de pistes comme ça, quoi. Donc on va avoir ça dans les semaines qui viennent.
Oh bah super. Mais de toute manière, là c'est une première émission. On aura l'occasion de se revoir dès que les choses auront davantage avancé.
La troisième chose qu'on voudrait essayer
rapidement parce qu'il ne reste plus que 3 minutes.
3 minutes, ça va. Oui. C'est de voir si c'est possible d'attaquer au pénal un certain nombre de responsables. Qui émettent des préconis, qui donnent des instructions illégales. Hein, parce que quand, par exemple, la CNAF dit voilà la manière dont vous pouvez échapper au plan de surendettement, vous prononcez la fraude préventivement, même si elle n'est pas sûre, pour que votre dette ne soit pas comprise dans le plan de surendettement, donc soumise à réfaction, ça, c'est illégal. C'est totalement scandaleux, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est que... On envisage de saisir les candidats aux législatives pour leur demander qu'ils prennent position dans les semaines qui viennent sur toutes ces questions-là. Mais ça, on en a parlé hier soir, donc c'est un peu court pour que j'en parle.
D'accord. Eh ben, écoute, on en reparlera, mais en tous les cas, d'avoir au moins un droit de l'usager CAF, c'est quand même déjà, ce serait déjà vachement bien, parce que je crois qu'on est tous un petit peu.
Ah oui, non, c'est sûr.
On ne sait pas comment ça fonctionne et du coup, on fait des tas de bêtises.
Oui. Et là, on fait ce travail. On a décidé de ne travailler que sur la CAF pour le moment, parce que c'est déjà très complexe.
Non, puis c'est nouveau, c'est vachement important parce que autant même si le travail doit continuer et que du coup dès du pouvoir ça évolue continuellement et puis avec cette histoire de numérisation de légifération des lois qui changent etc, c'est toujours en plein mouvement, on est toujours un peu paumé, mais sur la question de la CAF il y avait une espèce de silence, enfin il y avait pas grand chose. Donc c'est vraiment super que des collectifs s'y mettent, quoi.
Et en plus ça sert de cas d'école, ça sert de tête chercheuse de projet pilote pour Pôle emploi, pour un certain nombre d'autres secteurs. Et donc, c'est important de mettre un coup d'arrêt au tout numérique.
Ouais. Tout à fait. Bah, écoute, on est obligé de se quitter pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à nous recontacter. Hein, ce sera un plaisir
s'en charge,
de refaire. Voilà, Evelyne va s'en occuper. Merci, Evelyne. Merci à toi. De toute manière, on refera une émission rapidement.
Voilà, super. Merci aussi. Hein.
Au revoir.
À bientôt, alors.
Ouais, au revoir. Eh bah, ben, écoutez, on va se dire à lundi. Hein, à lundi prochain, 12h30, pour nouvelle actualité des luttes. Et puis, bon week-end. Hein, bon, c'est voilà, il va y avoir des trucs dimanche qui nous feront de toute manière pas plaisir, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai envie de dire au troisième tour social, mais comme on se le dit tous les 5 ans, des fois, on perd patience. Mais voilà. À bientôt, en tous les cas. Au revoir.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.